Le fort médiéval de Paphos. Le fort de Nea Paphos, situé à l'ouest du port, fut construit au milieu du XIIIe siècle par les Lusignans afin de remplacer le château aux 40 colonnes qui se situe environ 600 mètres plus au nord-est. Il s'agit d'un petit fort, bâti tout entier en pierre calcaire taillée. Il n'y a qu'une entrée à l'est et ses murs sont percés de fenêtres de très petite taille. La partie centrale comprend une grande tour bordée d'une cour close. Peu après 1570, les Vénitiens ont démoli le fort pour qu'il ne soit pas utilisé par les Turcs ottomans, dont l'invasion sur l'île de Chypre était anticipée. C'est en 1592 que le fort est restauré par les Turcs, selon une inscription turque figurant au-dessus de la porte d'entrée. De ce côté du port, on peut voir les vestiges d'une seconde forteresse qui aurait été construite en même temps que la forteresse existante. Allons faire un tour dans le temps pour nous rendre compte du rôle important que le fort a joué dans la défense de l'île, notamment pendant le Moyen Âge, de 1192 à 1489. La situation géographique particulière de l'île de Chypre, dans l'espace maritime du territoire byzantin, et les visées du monde islamique émergent depuis 649 transformèrent cette île ainsi que la zone maritime alentour en théâtre de concurrence féroce entre les deux superpuissances de l'époque, c'est-à-dire entre Byzance et les Arabes. C'est pourquoi Chypre se trouva au point de rencontre de ces deux mondes et à l'avant-poste de la mer byzantine. Cela explique aussi pourquoi l'île devint la première cible des expéditions maritimes arabes qui ont débuté sur l'île avec l'invasion de Chypre en 649. Les invasions des Sarrasins, source de nombreux maux et de dommages incalculables, se poursuivirent pendant plus de 3 siècles. Les dangers réels qui menaçaient l'île ont mis l'accent sur l'urgence de renforcer les fortifications existantes, ainsi que de construire de nombreux ouvrages défensifs le long de la côte. Cela explique sans doute la construction de 3 nouveaux forts pendant la deuxième moitié du 7e siècle. Ceux de Cantaras, Bufavento et Saint-Hilarion, car pour des raisons de sécurité, Chypre fut obligée de maintenir des forteresses tant sur la côte sud que sur la côte ouest. La protection de Paphos était assurée par un fort et quelques tours dès le début du 7e siècle. Même si la ville de Paphos n'était plus la capitale de l'île, elle demeura le siège du diocèse et une des villes les plus importantes de l'île. La première invasion arabe de 649 a ravagé l'île. Les maisons furent pillées, les enceintes et la forteresse sont tombées en ruines, et les églises ont été complètement détruites. On raconte qu'une seule église a été sauvée, la petite église de Panaya Theoskepasti, construite sur une élévation à Katopaphos, ville basse, environ à 800 mètres du fort. Theoskepasti signifie « caché par Dieu ». Et selon la tradition, Dieu aurait envoyé un nuage pour protéger l'église. Selon diverses sources, l'île de Chypre a subi 24 invasions arabes jusqu'en 965. Mais tout s'est arrêté avec la reconquête de l'île par les Byzantins au cours du règne de Nicéphore Phocas. L'île connaît une période de tranquillité pendant laquelle de nombreuses personnes connues sont venues et sont décédées à Paphos. Par exemple, le roi danois Éric Ier Eigot, toujours bon, Welf Ier de Bavière, duc de Bavière au début du XIIe siècle, et Amédée III de Savoie, duc de Savoie, en 1148. Selon saint Néophyte le Reclus de Chypre, 1134-1219, à part la forteresse, il y avait aussi un arsenal. Les pillages recommencèrent avec la conquête de l'île par le roi d'Angleterre Richard Cœur de Lion en 1191, selon le voyageur Jacques le Sage. Au cours de la domination franque, et en particulier au XIVe siècle, la ville de Paphos fut ravagée et pillée à plusieurs reprises par les Génois. Ce sont eux qui élevèrent les forts de Paphos et les environnèrent d'un fossé qui fut rempli d'eau de mer afin de les rendre imprenables, selon le chroniqueur chypriote Léonce Macheras. Ces 2 châteaux forts sont aussi mentionnés par de nombreux autres voyageurs qui visitèrent Paphos lors de la domination franque et vénitienne, 1192-1571. Nous savons par le chronographe vénitien, Marino Sanuto, qu'il y avait deux châteaux forts à l'entrée du port de Paphos. Cependant, en 1491, le voyageur allemand Dietrich von Sachsen ne parle que d'un fort, car l'autre avait été détruit par un violent tremblement de terre 2 mois avant son arrivée sur l'île. 50 ans plus tard, les deux châteaux forts sont abandonnés pour des raisons financières. Il n'y a qu'une garnison. L'un des forts est complètement effondré, d'après le voyageur tchèque Oldřich Prefat, car en 1546, il parle d'un seul fort, au quadrilatère. En 1571, au cours du règne de Selim II, l'armée ottomane envahit l'île de Chypre et un pacha turc fut nommé gouverneur. La ville de Paphos abritait le siège du juge régional, Kadi, et ensuite le siège du métropolite de Paphos. Personne ne s'intéressa à la restauration de la forteresse de Paphos jusqu'en 1592, lorsque le Beyler Bey, ou gouverneur, Ahmed Pacha, entama des travaux de réparation qui aboutirent à l'édifice actuel. Plusieurs voyageurs mentionnèrent dès lors les vestiges qui entouraient la forteresse et parlait avec mépris du fort de Paphos. En 1815, William Turner nota le mauvais état du fort. La période de la domination britannique succéda aux années sombres de la domination ottomane. En 1878, le fort de Paphos fut dépourvu de son équipement militaire. Le drapeau britannique fut hissé et l'endroit fut désormais utilisé comme dépôt public de sel que les caïques transportaient du lac Salé. 20 ans plus tard, la canonnière Le Hussard emmena Sir Garnet Wolseley à Paphos, un événement qui marqua l'histoire marine de l'époque. En sa qualité de haut-commissaire, gouverneur de Chypre, il visita le fort et les dépôts, et puis il alla à cheval jusqu'à Ktima, la ville moderne de Paphos, à la préfecture, où il fut reçu avec une grande solennité. À l'époque, les 3 grands dépôts en pierre de la douane entouraient le fort, et était utilisé pour le stockage de produits locaux ou importés. Actuellement, ces bâtiments sont restaurés et fonctionnent comme tavernes, magasins et salles d'exposition. Faisons maintenant le tour du fort. En empruntant une route pavée qui a été construite récemment le long de la mer, on peut voir le fort majestueux de Paphos, au bout du port pittoresque, au-delà des petites barques de pêche et des quelques bateaux. Pour atteindre le fort, on prend une rue piétonne bordée de tavernes de pêcheurs et de magasins, et on arrive à la place du fort, là où le fort rectangulaire en pierre calcaire taillée se dresse orgueilleux. On peut facilement distinguer l'étage unique en haut, au beau milieu du toit, ainsi que l'immense porte d'entrée au centre. En contemplant le fort, notre regard se porte plus bas, vers le fossé qui est rempli d'eau, surtout pendant l'hiver. Le fossé s'étend à droite, pour aboutir à un petit théâtre bâti. De l'autre côté, 50 mètres à gauche, on peut distinguer les vestiges de l'autre tour médiévale, dans la mer, alors que la rue piétonne nous conduit près des ruines de la basilique paléochrétienne de Panaya Limeniotissa. Facilement visible, grâce à sa couleur blanche, la plaque en marbre au-dessus de l'entrée porte une inscription en relief qui témoigne des travaux de réparation réalisés lors de la domination ottomane. En particulier, par le secours de la grâce divine, l'honnête Ahmed Pacha Hafiz, celui qui connaît le Coran par cœur, du vrai Coran, construisit le fort de Paphos et créa une bonne œuvre religieuse, à savoir ce fort solide. Que Dieu comble de bénédictions son possesseur, a dit Atali, le nom du poète qui a écrit l'inscription 1592. Ahmed Pacha fut, comme nous l'avons déjà vu, gouverneur de Chypre et ensuite d'Alexandrie. Cela explique sans doute l'existence d'un fort similaire à Alexandrie. Le fort, dans sa forme actuelle, est assez bien préservé. Il mesure 33 mètres de haut et 17 mètres de large. Il s'agit d'un bâtiment à étages de 21 mètres de hauteur. Sur la terrasse, il y a une enceinte de 2 mètres de hauteur couronnée de créneaux qui permettait aux défenseurs du fort de lutter contre les assaillants. Les créneaux furent également renforcés par l'installation de canons, ce qui est confirmé par le récit du voyageur catalan Ali Bey en 1806. Au sommet, on peut distinguer l'étage de 4,50 m de hauteur qui couvre un espace d'environ 13 mètres sur 7. En entrant dans le monument, on se trouve dans un large couloir en forme de croix. Sur l'axe horizontal, on peut voir deux bouches de puits à treuil qui assuraient l'approvisionnement en eau potable. Les deux extrémités de l'axe horizontal, à gauche et à droite, sont occupées par deux puits de jour et deux ailes identiques. Au rez-de-chaussée, il y a quatre pièces obscures, humides et peu lumineuses qui s'adossent au mur du couloir en forme de croix. Pendant la domination turque, l'endroit servit de prison pour les condamnés à lourdes peines. Après la conquête de l'île par les Anglais, en 1878, le fort fut utilisé comme dépôt public de sel. Depuis 1935, le sel est transporté dans l'un des dépôts de la douane et le fort a été classé monument ancien. Juste en face de l'entrée et à côté du bureau du gardien, l'escalier en pierre avec ses 31 marches de pierre et de bois donne accès à l'étage et à la terrasse. 12 petits canons, venus de Turquie en 1878, protégeaient autrefois les créneaux du fort. Au milieu de la terrasse, on peut voir trois petites pièces dotées d'ouvertures. La première pièce à gauche servait de mosquée, tandis que les deux autres pièces hébergeaient la garnison. Durant la domination ottomane, le fort comptait environ 50 soldats. Enfin, un escalier comptant 17 marches en pierre, près de la pièce gauche, mène au sommet du fort. Depuis le sommet, la vue est panoramique. Sa position permettait aux sentinelles d'observer tout mouvement dans un rayon assez étendu et d'apercevoir les navires ennemis afin d'empêcher toute incursion éventuelle. Aujourd'hui, un panorama exceptionnel s'offre aux visiteurs. L'immensité de la mer Méditerranée et plus loin, l'îlot d'Aios Georgios dans la baie de Peia à l'ouest. On peut aussi distinguer les hôtels très modernes, l'un à côté de l'autre, les montagnes éblouissantes qui bordent la ville et la vallée verdoyante qui s'étend jusqu'à Kouklia au sud. La superbe combinaison entre la montagne et la mer offre une vue fascinante. La beauté pittoresque du paysage est saisissante. Depuis 1999, le fort de Paphos abrite des événements exceptionnels, tels que l'opéra, qui a lieu chaque septembre dans le cadre du festival Aphrodite, organisé par la municipalité de Paphos et ses partenaires, parmi eux trois municipalités. Le répertoire comprend des opéras de Verdi, Aïda, Nabucco, Il Trovatore, Rigoletto, La Traviata, Un ballo in maschera, de Bizet, Carmen, de Puccini, Turandot, Tosca, La Bohème, Madame Butterfly, de Delibes, L'Acmé, d'Offenbach, Les Contes d'Hoffmann, et de Théodorakis, Zorba le Grec. Dans la région de Katopaphos, qui est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, on peut aussi visiter d'autres monuments remarquables comme le parc archéologique, où on peut découvrir les quatre résidences, les maisons d'Orphée, de Thésée, d'Aïon et de Dionysos, datant de l'époque romaine, pour admirer leur sol en mosaïque de grande qualité. Plus loin, on peut voir le phare construit lors de la domination britannique à l'emplacement de l'ancienne acropole de la ville hellénistique de Paphos du IVe siècle. À côté du phare se trouvent l'Asclépion, l'Odéon, l'Agora, ainsi que le château byzantin connu sous le nom de Saranda Colonnes, 40 colonnes. Son nom lui vient du grand nombre de fragments de colonnes de granit qui autrefois dominaient le site. Faisons une pause ici, car il s'agit du château qui fut remplacé plus tard par le fort de Paphos. Le château aurait été construit au cours des dernières décennies du 7e siècle afin de protéger la ville et le port de Paphos des invasions arabes. Il faisait partie, avec les deux châteaux forts situés dans le port et le mur d'enceinte qui renfermait la ville, des principales fortifications de Paphos et de la région environnante pendant les périodes troublées. Le fort fut détruit pendant les raids arabes de 653-654 et reconstruit quelques années plus tard. Mais en 688, il fut démoli dans le cadre de l'accord signé entre les Byzantins et les Arabes, faisant de Chypre un terrain neutre. Cependant, en 965, le château fut reconstruit par les Byzantins et en 1191, il fut livré à Richard Cœur de Lion. Quelques transformations ont été réalisées par les Lusignans vers la fin du XIIe siècle, mais en 1222, le château fut complètement détruit par un tremblement de terre. À part le parc archéologique, à une distance de 850 mètres au nord-est du château, on peut visiter le pilier de l'apôtre Paul, les vestiges de l'église gothique et celle de la basilique paléochrétienne, Panaia Chrysopolitissa. Cette église fut la première étape de la visite du pape Benoît XVI lors de son voyage apostolique à Chypre qui commença le 4 juin 2010. Plus au nord, on trouve l'ancien théâtre de Paphos. À environ 2,5 km, au nord-ouest du château, on peut visiter encore un monument de l'époque hellénistique qui figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit des tombeaux des rois, la fameuse nécropole de l'ancienne Néa Paphos, fondée lors du IVe siècle. Les amateurs de randonnée peuvent suivre une rue piétonne au bord de la mer qui s'étend du parc archéologique jusqu'au tombeau des rois. La prochaine fois que vous vous trouverez à Paphos, la destination touristique la plus populaire de Chypre ces dernières années, n'oubliez pas de visiter son port pittoresque et son fort médiéval. Si vous aimez la mer, vous pouvez faire une petite promenade en bateau ou tout simplement vous asseoir confortablement dans un café-restaurant pour profiter d'une tasse de café et contempler l'horizon, là où le bleu du ciel se mélange à celui de la mer.